Bonjour et bienvenue dans ce podcast Exégèse biblique. Ici Sébastien Daune et je suis très heureux d'être avec vous pour parler d'un article qui vient tout juste de sortir, le témoignage de la pierre qui a entendu une interprétation écologique de Josué 24. Alors ça fait au moins un an que j'ai pas fait de podcast, je m'en excuse. Je suis très heureux de pouvoir reprendre ça. Alors, les activités professorales étaient un petit peu intenses dans la dernière année, mais très heureux d'être avec vous pour réfléchir sur un regard écologique sur un texte biblique important. Donc, en somme, ce qu'on va travailler dans ce présent podcast, c'est de voir comment est-ce qu'en étude biblique, on peut être en phase avec des enjeux contemporains comme l'enjeu écologique. Donc, moi, ce que je privilégie dans cette réflexion, c'est de partir de ce que Norman Hubble a développé autour de son groupe Earth Bible Commentary. Et ce qu'il a développé, c'est une herméneutique écologique. Donc, une façon d'interpréter les textes bibliques à partir d'un regard écologique. Et il y a comme trois niveaux dans sa démarche. Un premier où on regarde la suspicion, donc c'est de regarder les textes et les interprétations avec un doute pour essayer de voir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui est pas écologique là-dedans. Après ça, identification, donc l'identification, d'essayer de s'identifier avec des éléments non humains dans le texte. Et retrieval, qui est de retrouver les perspectives qui sont propres à ces éléments non humains-là. Donc, je vais utiliser cette herméneutique, cette façon de travailler les textes, pour l'appliquer à une pierre dressée qui est dans le texte de Josué, chapitre 24, les versets 26-27. Cet élément naturel, inanimé, hein, une pierre, a pourtant la faculté d'entendre dans ce texte-là, entendre les paroles de Yahvé et de témoigner contre les destinataires du récit. Donc, cette pierre est sujet à part entière d'une communauté écologique et lire ce chapitre-là, chapitre 24, à partir du point de vue de la pierre, bien, je crois que ça permet une posture critique de résistance devant l'anthropocentrisme et la stigmatisation de l'autre. Avant de plonger dans le texte comme tel, je veux d'abord faire un petit hommage à Robert David, qui était un professeur d'études bibliques à l'Université de Montréal, qui a été mon professeur et qui a pris sa retraite, et l'ensemble du numéro théologique dans lequel se situe l'article dont je vous parle est en hommage à Robert David. Robert David, qui, dans un article de 91, disait que l'exégèse, pour conserver sa pertinence, doit s'inscrire dans la mouvance des interrogations suscitées par les nouvelles situations sociales au cœur des enjeux contemporains. Bon, on pourrait dire oui, ça va de soi, mais pas nécessairement. Il y en a qui vont vraiment voir l'exégèse comme quelque chose qui est retrouver le passé pour mieux comprendre le passé, point. Mais moi, je suis vraiment d'accord avec Robert David dans le fait que l'exégèse doit partir des questions qui nous habitent aujourd'hui pour revisiter ces textes anciens-là. Donc, et c'est comme ça qu'on peut être pertinent et entrer en dialogue avec les sciences humaines en général, puis bon, donc de pas juste être confiné entre nos murs exégétiques. Donc, Robert David avait travaillé Josué 24 et il a proposé une interprétation originale du chapitre du verset 27. Le verset 27, c'est « Et la pierre servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne déceviez votre Dieu. » Ça, c'est la manière de traduire dans la Tob. Robert David, le Dieu, le Elohim, il va le traduire au pluriel. Alors, on sait que Elohim, c'est un pluriel qui fonctionne comme un singulier. Mais bon, Robert David va choisir de le prendre au pluriel et dire « La pierre va devenir un témoin contre vous au cas où vous vous fourvoyez dans vos dieux. » Donc, il y a une espèce d'aspect ironique là-dedans, de dire « Bon, mélangez-vous pas dans vos dieux, la pierre, elle est là. » Bon, on va revenir là-dessus. Mais bref, donc, je pars en partie de son travail sur ce texte-là. Alors, Josué 24, c'est un chapitre qui raconte la conquête de Canaan. Ça fait une espèce de synthèse, de survol, dans lequel l'humain et le divin unissent leurs forces dans des actions qui sont assez violentes. Et moi, je vais essayer de développer un contre-récit écologique avec Norman Hubble, que je disais tout à l'heure, et la manière dont on travaille les textes du Earth Bible Commentary. Donc, la première étape, selon Hubble, c'est de développer un soupçon. espèce de débusquer les anthropocentrismes. Bon, vous savez, on a souvent accusé la Bible d'être anthropocentrique, donc de mettre le point de vue de l'humain devant tout et d'avoir une espèce de relation de pouvoir envers tout ce qui est non-humain. Ben, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, il faut le dénoncer. Donc, Hubble souligne qu'un texte biblique est susceptible d'être lui-même le texte intrinsèquement anthropocentrique et aussi d'avoir été lu traditionnellement dans une perspective anthropocentrique. Donc, il y a le texte, mais il y a aussi nos interprétations qui peuvent être trop centrées sur l'humain et d'instaurer une relation hiérarchique entre l'humain et Dieu et le reste de la création. Donc, Dieu est en haut, les humains sont mis en charge du reste. Donc, il y a une espèce de hiérarchie. Les interprétations écologiques de Norman Hubble nous disent non, il faut résister à ça. Est-ce qu'on est capable de dénoncer ça, de dire « Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici » parce que, ultimement, au niveau éthique, les interprétations anthropocentriques, centrées sur l'humain, amènent quelque chose de mal, amène les conditions de possibilité de détruire cette création, d'en faire ce qu'on en veut, et ça amène là où on est dans la crise écologique telle qu'on la connaît. Donc, c'est pour ça qu'il essaie de résister puis de faire exégèse autrement. Donc, est-ce qu'il y a des interprétations anthropocentriques du chapitre 24? On va commencer par ça, de voir est-ce qu'il y a des interprétations qui sont anthropocentriques. Mais là, oui, d'habitude, le chapitre 24 est souvent étudié au niveau historique pour voir comment est-ce que la Bible hébraïque a été rédigée. Alors, c'est le dernier chapitre, c'est la fin du livre de Josué, et donc aussi la fin d'un supposé exatèque des six premiers livres de la Bible hébraïque. Donc, c'est de voir quand est-ce que ça a été écrit, pour quel point de vue. Est-ce que c'est un point de vue judéen? Est-ce que ça vise à aller chercher les membres de la diaspora, les Samaritains? Ou en tout cas, bref, les interprétations sont souvent de voir quel être humain a écrit ça pour quel être humain. Donc, on est vraiment dans des préoccupations qu'on pourrait dire anthropocentriques. Il y a quand même des interprétations post- ou décoloniales ou féministes qui ont critiqué ce chapitre-là pour voir que oui, il y a des idéologies qui sont transmises en Josué qui éthiquement tiennent pas la route. D'essayer de voir quelles sont les injustices qui sont là puis comment est-ce qu'on peut lire ça. Ces interprétations-là vont pas aller jusqu'à voir les injustices subies par les membres non-humains de la communauté écologique qui est dans le texte. Alors bon, qu'est-ce qui se passe avec les vignes, avec les olives, avec les abeilles qu'on mentionne dans le texte? Est-ce qu'elles subissent cette conquête aussi, tout comme le peuple qui vivait là? Bref, on y reviendra. Donc, il y a quand même une porte ouverte, mais elle va pas jusqu'au bout, au niveau écologique. C'est trop rapide côté revue de la littérature, mais qu'est-ce que voulez-vous? On va continuer, on va aller voir autre chose. Donc oui, on a surtout des interprétations anthropocentriques. Le texte lui-même de Josué 24 est-il anthropocentrique? Ce que je vous propose, c'est de regarder la manière que les pierres sont traitées dans Josué, dans son ensemble. En Josué, les pierres sont grosso modo toujours utilisées comme des outils pour les humains, pour Dieu, et pour une espèce, dans un objectif rhétorique de faire mémoire, mais de faire une mémoire de qu'est-ce qui se passe entre Dieu et les humains. Au chapitre 4, il y a 12 pierres qui sont présentées comme des commémorations de l'entrée en terre promise. C'est vraiment un exemple de, on se remémore d'un événement de l'histoire du groupe à partir de pierres. Josué 5, il y a des pierres de silex qui sont utilisées pour circoncire les fils d'Israël. Donc, c'est vraiment des outils, comme des couteaux. Donc, on les frappe ensemble pour les aiguiser. Chapitre 7 de Josué, il y a une transgression d'Akan qui est punie lorsque tout Israël le lapide. Donc, on le lapide avec des pierres. Les pierres deviennent des instruments de meurtre. On exécute quelqu'un avec des pierres en Josué 7. En Josué 8, il y a un grand amas de pierres qui existe encore, qui marque le lieu de la mort du roi d'Aï, de la ville d'Aï. Et dans ce chapitre-là, il y a un rituel d'alliance qui est fait en construisant un autel de pierres brutes sur le mont Ebal pour les holocaustes, des offrandes de paix. Donc les pierres sont utilisées comme le support matériel sur lequel Josué va graver une copie de l'enseignement de Moïse, la Torah de Moshe. Donc la pierre devient le support matériel, un outil pour cet enseignement-là qui passe par la pierre. Jaws 8-10, ben, il y a une guerre aux proportions cosmiques dans laquelle Yahvé lui-même va lancer des grosses pierres et va tuer plus de monde que les forces humaines de l'armée de Josué. Donc, il y a vraiment une utilisation violente de pierres de la part du Seigneur lui-même. Et des grosses pierres sont roulées pour sceller une grotte où se cachent 5 rois ennemis. Et finalement, ils vont être exécutés. Et ces grosses pierres-là vont être là comme... vont être utilisées pour l'ouverture de grottes. Donc, ils ont une fonction mémoriale et on se rappelle de ces pierres-là. Josué 15-18, on mentionne une pierre de Bohan, donc une pierre qui appartient à un homme, comme frontière entre le nord et le sud d'un territoire. Bref, on lui attribue un sens, mais à partir d'une séparation du territoire humain. Aucune de ces pierres ne sont sujets d'un verbe actif. Ce sont tous des objets manipulés par des humains, par Dieu, utilisés comme des armes pour tuer ou des outils pour couper les prépuces des Hébreux. Donc, ils sont utilisés pour marquer la tombe de défunts, la frontière, bon, etc. C'est vraiment une utilisation qu'on pourrait dire anthropocentrique. Ils sont vraiment au service des humains à travers tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait... essayer d'identifier les éléments non humains en Josué 24 pour aller ailleurs. Donc la deuxième étape dans l'herméneutique écologique de Norman Hubble, c'est identification. Donc maintenant qu'on a critiqué qu'est-ce qui est anthropocentrique, essayons de s'identifier aux éléments non humains. Puis dans le chapitre 24, il y en a plusieurs éléments non humains qui sont là. Beaucoup de choses sont racontées. Mais on passe par-dessus très rapidement. On ne s'attarde pas à voir... qu'en est-il? Donc, essayons quand même de s'y attarder un tout petit peu le récit, pour voir c'est quoi le récit de la communauté écologique en Josué 24. Au début, les 7 premiers versets, ben, ils partent de l'autre côté du fleuve, d'un côté qui est associé à vos pères, Terah, Abraham, Nahor, qui servaient des dieux. Puis, au ce point de départ-là, on a une communauté écologique qui est marquée par une rivière, des pères, des dieux. Mais il y a une traversée. Comment est-ce que le fleuve, la terre de Canaan ont vécu la traversée d'Abraham? Qu'est-ce qu'il a ressenti au verset 4, Sir, lorsque Dieu l'a donné comme possession à Ésaü? Le récit se termine... Le récit se réfère ensuite à la façon dont le Seigneur a frappé l'Égypte dans son intimité, à l'intérieur d'elle. Que pensait la mère de vos pères qui venait à elle, poursuivie par des hommes à cheval? Et la mère a entendu les cris de vos pères. Elle a vu les ténèbres venir. Elle fut utilisée, cette mère-là, par le Seigneur pour recouvrir les cavaliers. Donc, elle fait l'œuvre de destruction. Elle est utilisée par le Seigneur pour tuer. Donc, il y a la mort d'humains, mais aussi de leurs chevaux, qui ne sont pas mentionnés explicitement dans le récit, mais qui sont comme des victimes collatérales de ce carnage-là. Par la suite, on arrive dans des éléments plus désertiques. Le désert, est-ce qu'il n'a pas été surpris de vous voir vivre sur lui? En particulier pour de longues journées, telles que mentionnées au verset 8, puisque des humains n'ont pas tendance à y vivre en si grand nombre. Donc, l'affliction des fleuves du désert était temporaire, mais ce n'est pas le cas de ce qui suit. Là, on arrive dans la terre de Canaan, cette terre à côté, de l'autre côté du Jourdain, qui était membre à part entière d'une communauté écologique, avec d'autres peuples qui sont mentionnés au verset 8, hein, les Amorites par exemple. La terre est alors donnée par le Seigneur à un « vous », entre guillemets, qui l'avait possédée. Alors le texte le dit « vous l'avez possédée ». Cette terre a reçu les cadavres des habitants de Jéricho qui ont été tués, à l'entrée de ce nouveau groupe-là, mais aussi ceux des Amorites, des Périsites, des Cananéens, des Hittites, des Girgachites, des Hivites et des Jébusites, tels que mentionnés au verset 11. Donc, il y a vraiment une communauté écologique qui était là, dans laquelle il y avait des êtres humains qui sont massacrés, et la terre accueille ces habitants-là morts. Donc, vous voyez, je suis en train de regarder... Ce chapitre-là, mais du point de vue des éléments non humains du texte, voir qu'est-ce qui se passe avec la communauté écologique. Le Seigneur tourne les membres de cette communauté écologique les uns contre les autres. Les frelons, les guêpes, sont envoyés contre les Amoréens au verset 12. Les vignobles, les oliveraies qui étaient plantés et entretenus par les gens de la terre qui étaient là, sont donnés à vous, ce nouveau peuple qui vient d'arriver au verset 13. Or, les vignes et les oliviers prennent plusieurs années avant d'offrir gracieusement leurs fruits aux personnes qui en prennent soin. Ça prend plusieurs années. Mais c'est des étrangers qui ont mangé du raisin et des olives sans devoir s'investir, de prendre le temps, de grandir, de vieillir avec les plantes et qui sont source de vie. Habituellement, on met l'empathie lectorale sur Josué et ses compagnons, puis on voit moins les problèmes éthiques du récit de Josué. Cependant, quand on essaie de regarder d'un point de vue environnemental ce qui se passe dans ce récit-là, et qu'on regarde de point de vue de la terre, peuple, rivière, dieu, insectes, plantes, de cette communauté écologique-là, on voit qu'il y a des choses qui sont perturbées par la destruction. Des rivières qui sont instrumentalisées pour tuer des hommes, des chevaux, des roches qui sont utilisées comme des armes de guerre, des peuples déplacés, d'autres exterminés, des arbres fruitiers qui sont pris, donnés. Donc la nature est à la fois un moyen et une victime de la destruction. Une dynamique qui est quand même assez fréquente dans les textes bibliques, notamment les textes prophétiques, lorsque Dieu combat ou punit. Un angle interprétatif que j'aime employer ici, c'est de regarder ce qu'on appelle en anglais « othering », de voir comment est-ce qu'on qualifie l'autre. Une discrimination qui provient d'une norme sociale où on va dénigrer, on va opprimer, marginaliser, rejeter celui qui est autre, qui est différent. Donc, il y a comme une espèce de logique du « nous contre eux » qui se développe dans le livre de Josué. Et le problème, c'est quand on fait ça, tous ceux qui sont dans le camp du « eux » vont subir une violence et que ce « nous-là » se développe grâce à cette fracture-là. Alors, par exemple, dans Josué 24, les frelons, les guêpes, ils ont une fonction, ils sont envoyés par Dieu pour chasser les rois amorites en faveur des Hébreux. Mais on sait que ces insectes-là, ils ont une valeur intrinsèque pour la pollinisation. Donc, ils sont récupérés dans une rhétorique idéologique où ils sont instrumentalisés pour faire en sorte que la nature elle-même participe à l'assujettissement et la destruction qui se passe là en Canaan. Alors, sont récupérés dans le récit, ils vont jouer un rôle, alors que c'est pas le rôle qu'ils vont jouer normalement. Là. Ils sont pris dans cette rhétorique de « othering » où on attaque le « eux » et on développe un « nous » sur le dos de ce « eux »-là. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'il y a un renversement. Normalement, ceux qui devraient être chez eux, c'est les autres peuples cananéens qui sont là depuis tout le temps, qui font partie de cette communauté écologique-là. Et là, il y a un renversement. Ces personnes-là sont vues comme les étrangers, comme les autres, alors que le groupe de Josué s'installe comme s'ils étaient chez eux. Donc, il y a un renversement violent là-dedans de la communauté écologique qui était stable dans ce lieu-là. La troisième partie du projet de Habel, c'est de retrouver la voix. Retrouver la voix ici de la pierre, ce que je suggère en Josué 24, versets 26 à 27, voir que cette pierre-là a une perspective unique et nous permet peut-être de retrouver une posture plus écologique dans ce texte-là. Donc, moi, je vais essayer d'appliquer les principes de justice écologique du groupe Earth Bible Commentary. Donc, leurs principes, il y en a 6. Puis c'est des principes qu'on pourrait appliquer à n'importe quel texte biblique. Donc, le premier principe, c'est de voir qu'il y a une valeur intrinsèque à tout ce qui vient de la Terre. Deuxième principe, il y a un principe d'interconnectedness. Interconnectedness. Tout est connecté, dans le fond. Troisième principe, le principe de la voix. La Terre est capable elle-même d'avoir une voix qui célèbre ce qui se passe ou qui crie contre l'injustice. Quatrième principe, c'est « the sense of purpose », de voir qu'il y a un objectif, il y a un but. Cette terre-là, elle veut faire quelque chose, elle fait pas juste subir, elle-même, elle a des désirs. Cinquièmement, le principe qu'il appelle « mutual custodianship », de voir qu'on est ensemble, on est gardien de la création, tous les membres de la communauté écologique. Et finalement, le sixième principe, un principe de résistance. La Terre est capable de résister elle-même et ne fait pas juste souffrir, elle va résister activement. Donc ça, c'est les 6 principes qui ne sont pas décrits dans un langage religieux, qui veulent ouvrir justement un dialogue avec les sciences humaines de façon plus large. Donc, essayons de voir en quoi ces principes-là pourraient nous aider à retrouver la voie de la pierre, pour trouver une perspective différente dans le texte. Donc, d'abord, j'aimerais travailler la valeur intrinsèque. Les pierres ont une valeur intrinsèque et ils ne sont pas juste des symboles, ils sont matériellement quelque chose, et quelque chose d'assez très spécifique qui ont des qualités qui valent la peine d'être mentionnées et qui nous permet de comprendre comment ils sont utilisés dans un texte comme celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pierre? Bon, ben, c'est sûr, ça semble simpliste, mais une pierre, c'est dur. Donc, ça s'érode sous l'action du vent et de l'eau, mais ça prend des années et des années. Donc, il y a un élément temporel important. Les pierres, ça dure très longtemps. Elles sont dures et elles durent. Elles peuvent être énormes, elles peuvent être très lourdes. Elles ont des durées de vie extrêmement longues, donc une échelle géologique qui se mesure en millions d'années, qui dépasse largement nos propres vies. Elles sont stables, elles sont visibles, et elles sont abondantes, particulièrement dans les collines d'Éphraïm où ce récit-là est situé. Donc, la pierre, en Josué 24-26, on précise que c'est une grosse pierre, mais c'est un peu tout ça qui est là. C'est une pierre qui arrive avec ces caractéristiques-là. Elle est visible en raison de sa taille, parce que c'est une grosse pierre, mais elle est dressée dans un environnement qui lui est pas naturel, donc on va la remarquer et se poser des questions, voir qu'est-ce qu'elle fait là. L'aspect temporel est important. Le texte spécifie qu'elle va être là pour les générations à venir, puis qu'elle va avoir ce rôle de témoin pour le vous, là, ceux qui vont lire le texte. Donc, comme les pierres, elle va durer longtemps pour pouvoir jouer son rôle. À l'inverse des statues qui représentent quelque chose de précis, ou la tablette qui avait la table de pierre qui avait les commandements de Moïse, ici, on a une pierre qui peut pas être déchiffrée, qui a pas un langage, mais à quelque part, par sa nature d'être dressée dans un milieu un peu particulier, elle communique quelque chose, mais pas quelque chose de linguistique, pas quelque chose qui passe par le langage. Elle communique par sa matérialité. Elle médiatise sans langage. Elle invite les gens à la regarder, à la contempler, à discerner l'effet de sa présence. Elle communique grâce à sa présence matérielle. C'est comme ça qu'elle passe sa voix. Donc, il y a une oui, elle entend cette pierre-là dans Josué 24. Quand j'entends que la pierre entend les paroles de Yahvé, qu'elle a entendu tout ce que Yahvé nous a dit au verset 26, moi je peux pas ne pas entendre aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 40, les pierres qui peuvent prendre le relais des disciples en louant Dieu. Hein. La citation c'est celle-ci. Je vous le dis, si les disciples se taisent, mais ce sont les pierres qui hurleront. Donc, on a d'autres passages bibliques qui donnent cette attribution d'une voix aux pierres. Mais en Josué, la pierre ne parle pas. Et elle écoute. Elle écoute et elle témoigne. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que la pierre n'est pas toute seule. Elle est en interconnectivité avec toutes sortes d'autres éléments. Alors, par exemple, elle fait partie d'un sanctuaire sous un chêne, en association avec le Sefer Torah Elohim, et ce que Yahvé a dit, mais aussi d'autres divinités. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont là. Alors, l'association au chêne est importante. On pourrait aller relire d'autres textes bibliques qui parlent de chêne, notamment le passage autour du chêne de Mambré où Abraham reçoit la visite du Seigneur. Donc, cette présence divine-là, elle est possible, elle est pensée autour des chênes, mais elle est aussi pensée autour des matsebas, de ces pierres dressées, appellent dans le Proche-Orient ancien la présence de divinités. Et dans le cas de la Bible, on a des pierres dressées qui sont installées par les patriarches au lieu où on a la présence de Dieu qui se révèle. Hein. Par exemple, Jacob va utiliser une pierre en Genèse 28 comme un oreiller lorsqu'il va sentir la présence de Dieu. Je vous cite 28-22. Et cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu, Bethel. Donc, il y a un épisode biblique où on voit comment une stèle est là pour marquer la présence de Dieu et la rendre accessible aux êtres humains. Il y a une connexion avec la Torah, avec les paroles qui sont écrites dans le livre de l'Alliance, avec les paroles de Yahvé, mais aussi, ce qui est particulier, il y a une connexion avec les autres divinités. Comme je vous le disais au début de ce balado, Robert David traduit Elohim au pluriel en disant au verset 27 « Elle deviendra cette pierre, un témoin contre vous au cas où vous vous fourvoyez dans vos dieux. » À quelque part, ces dieux-là, c'est des divinités, mais qui n'étaient pas nécessairement étrangères. Ce sont des divinités cananéenne, mais on sait très bien que Israël continue à rendre un culte à ces divinités cananéennes, et tous les textes, plusieurs textes bibliques, prophétiques notamment, montrent vraiment un antagonisme entre Yahvé et toutes ces autres formes de divinités qui sont encore très présentes dans le peuple. Donc, à quelque part, la stèle qui est là permet aux autres divinités d'être présentes dans le sanctuaire et de les réorienter vers Yahvé. Donc, elle est là comme signe, comme témoin. Si on se fourvoie dans nos dieux, le vrai dieu, à quelque part, c'est Yahvé. Cette stèle-là nous rappelle les anciennes divinités et l'orientation vers celle qui devient centrale. Donc, on a une connectivité qui se passe au niveau des divinités. Mais retournons plutôt à un regard plus écologique, plus spécifiquement écologique, en essayant de regarder un des aspects qui est délimité par Norman Hubble, le mutual custodianship. Comment est-ce qu'il y a une responsabilité réciproque qui peut se développer autour de cette pierre-là? En Josué 24, versets 26-27, la pierre et les destinataires du récit, le « nous » qui se construit dans le lectorat, ont plusieurs éléments en commun. Dans les deux cas, autant la pierre que les destinataires sont appelés à servir de témoins dans l'alliance avec Yahvé. Au verset 22, « Vous êtes bien témoins contre vous-même, dit Josué, que vous choisissez de servir Yahvé. »« Témoins, disent-ils. » Alors qu'ils répondent. Bon, la pierre, on dit, cette pierre sera un témoin contre nous, car elle a tout entendu ce que Yahvé nous a dit. Elle deviendra un témoin contre vous si vous vous trompez de Dieu. Donc, bref, il y a cette fonction de témoignage qui se construit pour le nous et pour la pierre. De même, l'action d'entendre la voix de Yahvé et d'obéir à ses paroles est associée au peuple comme à la pierre. Verset 24, « Notre Dieu que nous servirons, c'est Yahvé, dit le peuple à Josué. C'est lui que nous écouterons. » Cette pierre, au verset 27, sera un témoin contre nous, car elle a tout entendu de ce que Yahvé nous a dit. Donc, il y a un jeu de mots en hébreu, écouter et obéir, c'est la même réalité, là. Donc, la pierre, et le peuple sont à la fois témoins et entendre les voix. Mais la pierre en Josué 24 permet aussi une espèce de forme de résistance. Ça aussi, c'est important dans l'herméneutique écologique de Hubble, c'est comment est-ce que ça, on peut résister aux injustices écologiques. Donc, la pierre, elle est mise pour témoigner contre. Et pourquoi pas essayer de développer un contre-récit écologique à partir de sa voix. On l'a vu précédemment, que la résistance est une qualité intrinsèque du roc. Le roc, c'est résistant. Ça, il faut beaucoup de temps, de pluie, de soleil pour l'éroder. Elle est mise comme un témoin contre vous. Donc, cette caractérisation narrative comprend la fonction de résister à la transgression du peuple à l'Alliance. Bon, l'hypothèse interprétative que je porte, c'est de dire, est-ce que cette voix de la pierre permettrait aussi une résistance à l'idéologie anthropocentrique des textes bibliques? Est-ce que cette pierre-là n'a pas entendu les paroles de Yahvé, puis qu'elle n'est pas placée comme un témoin contre les destinataires de ce récit, en occupant une position unique pour témoigner aussi de la relation brisée au sein de la communauté écologique, de dire, regardez qu'est-ce qui s'est passé ici, regardez l'alliance qu'on est en train de former, et voir quelles sont les destructions possibles, qu'est-ce qui pourrait briser cette alliance-là. Une destruction qui a été causée par la migration d'un peuple qui s'est installé violemment en Josué, dans un territoire qu'il a conquis en s'appuyant sur des motifs théologiques, politiques. Bon, tout ça, on arrive à une conclusion, hein, pour essayer de mieux prendre un pas de recul derrière tout ça. Comment lire la Bible à l'heure de la crise écologique? Bon, il y a eu un fameux article en 1967 de l'historien Lynn White qui blâmait le christianisme pour son anthropocentrisme et la crise écologique, pour lui, était due à l'anthropocentrisme du christianisme. Mais il indiquait aussi que les études religieuses peuvent contribuer à la déconstruction de cet anthropocentrisme. Je vous cite en anglais cet article. What people do about their ecology depends on what they think about themselves in relation to things around them. Human ecology is deeply conditioned by beliefs about our nature and destiny, that is, by religion. More science and more technology are not going to get us out of the present ecological crisis until we find a new religion or rethink our old one. Donc, il nous dit que, dans le fond, plus de technologie va pas aider nécessairement dans cette crise écologique. Il faut repenser notre religion ou en trouver une autre parce que le rapport de l'humain à la création qui nous entoure est très important. Nos croyances par rapport à la nature vont changer nos actions. Donc, il ne faut pas juste travailler sur des meilleures technologies, il faut aussi changer notre manière de concevoir notre rapport à l'environnement. Et, à quelque part, les études religieuses, et pourquoi pas l'exégèse, peut contribuer à ça. Comme on le disait au départ, avec Robert David, l'exégèse, pour conserver sa pertinence, doit s'inscrire dans un mouvement d'interrogation suscité par les nouvelles situations sociales au cœur des enjeux contemporains. C'est sûr que les textes bibliques n'ont pas été écrits dans un contexte de changement climatique, de contamination généralisée des milieux naturels ou dans un âge qu'on pourrait appeler anthropocène où l'être humain accélère les changements sur la planète. Mais les chercheurs qui, comme moi, essayent d'interpréter la Bible dans notre contexte actuel ne peuvent pas mettre une sourdine sur ces enjeux environnementaux-là. Au contraire, ils sont très présents en nous. Qu'est-ce que ça change que lire les passages bibliques à partir de ces préoccupations-là? Donc, l'objectif, c'est pas d'imposer au texte des choses qui viennent de notre culture, mais plutôt d'entrer en dialogue avec eux, puis d'essayer de regarder des perspectives uniques qui se dégagent du texte. Un peu comme il y a déjà, depuis au moins une centaine d'années, on a des perspectives féministes qui ont retrouvé des paroles, qui ont retrouvé des figures, des personnages de femmes qui sont dans les textes bibliques et dont on ne traitait pas, qui étaient mis sous silence. Puis de voir comment est-ce que certains textes causent une violence aux femmes. Donc bref, un peu de la même manière que le féminisme travaille les textes bibliques, ben, l'écologie aussi peut développer une résistance aux visions négatives, puis essayer de susciter des perspectives différentes. Donc bref, j'espère que vous avez apprécié cette réflexion sur la pierre en Josué au chapitre 24, les versets 26-27. C'est, je vous rappelle, écrit dans un article disponible dans la revue Théologique. Et puisque je travaille présentement sur un livre sur l'herméneutique écologique, on risque de rediscuter de ce genre de préoccupations-là avec d'autres textes, peut-être aussi avec d'autres angles d'intérêt, d'autres approches, parce qu'il y a toutes sortes de façons de travailler les enjeux écologiques et la Bible. Donc, restez à l'écoute si jamais ça vous intéresse. On risque de travailler quelques textes avec cet angle-là. Sinon, je vous souhaite de continuer à faire vos recherches en études bibliques, à lire les textes bibliques par vous-même. Tiens, pourquoi pas aller reprendre le livre de Josué, le lire en entier ou au moins le chapitre 24 après ce podcast-là. Et n'hésitez pas de me contacter, que ce soit par le site web Exégèse biblique ou ma page de prof sur le site de la Faculté de théologie de l'Université Laval. C'est toujours agréable d'avoir des nouvelles de lecteurs et d'auditeurs, voir où est-ce qu'on voudrait aller avec nos réflexions sur les textes bibliques. C'est Sébastien Daune, professeur en études bibliques à l'Université Laval. Merci beaucoup pour votre attention.